is forever, forever worship you. I can only imagine.
Dimanche dernier, si vous en souvenez, je n'en doute pas, hein, bien entendu, nous avons particulièrement abordé la raison biblique pour laquelle Dieu nous appelait à pardonner. La raison qui est en rapport avec sa personne à lui, à savoir qu'il est comme ça, qu'il est amour et donc pardon. Et comme nous sommes devenus, nous qui sommes chrétiens, par notre nouvelle naissance, notre naissance d'en haut, ses fils et ses filles, nous devons apprendre à faire et à vivre ce que Dieu fait et vit par nature, lui ressembler en quelque sorte. J'aimerais tenter de voir avec vous aujourd'hui d'autres raisons très importantes pour lesquelles nous devrions effectivement emprunter le chemin du pardon. Alors je ne sais pas s'il vous arrive encore de regarder ces séries télévisées comme Esprit criminel, bon c'est peut-être pas drôle comme série, mais bon, ou Mindhunter, ça c'est sur Netflix, qui raconte en fait la traque à laquelle se livrent des unités spéciales du FBI, des unités qui existent bel et bien. C'est un chouette boulot, je trouve, que font ces hommes et ces femmes. Alors, vous savez, leur rôle est d'étudier les crimes horribles commis par des tueurs en série pour essayer de les arrêter. Donc le pitch est assez simple. Par contre, chaque fois que je regardais ces séries à l'époque, parce que je ne les regarde plus, je me posais toujours la même question face à ces véritables crimes. Comment devaient vivre, ressentir, réagir les familles qui étaient victimes de ces meurtres horribles? Imaginez qu'on tue votre fils, votre fille, dans des conditions abominables. Hein, vous êtes chrétien, ça arrive à un de vos enfants, et vous êtes appelé par votre père à pardonner à ces hommes ou à ces femmes. Il y en a moins quand même chez les femmes. Mais il y en a quand même quelques-unes. Pour le dire plus clairement encore, quelqu'un peut-il atteindre un stade où il devient dès lors impossible pour lui de pardonner? Pour le dire encore autrement, existe-t-il des exceptions au pardon? Des cas où Dieu dit, ouais, monsieur, ça, tu ne dois pas pardonner, ça, ce n'est pas possible pour toi, donc laisse tomber. Face à ce genre de cas extrêmes, tout comme d'ailleurs confronté à d'autres plus légers, quand nous finissons parfois par nous adoucir au point d'être sur le point de pardonner, il peut arriver que nous disions quand même à ce moment-là, à ce stade-là, que cette capitulation serait indigne de nous, indigne de notre souffrance. Ce serait donc dès lors trop facile de pardonner. Et nous sentons dès lors intérieurement quelque chose en nous se rebeller contre même l'idée du pardon. Alors la question demeure, qu'est-ce qui pourrait bien me pousser à pardonner quand même? Dieu pardonne, je l'ai dit la semaine passée, nous sommes donc appelés à pardonner comme lui. Mais nous savons aussi que le fait de savoir que Dieu me pardonne ne suffit souvent pas, dans l'expérience, dans la pratique, pour que j'applique le même principe à celui ou celle qui m'a fait du mal. Alors, si vous me dites après, oh, mais tu sais, moi c'est évident, ok, c'est, bah, tant mieux, hein, mais pour 99,9% des hommes et des femmes de cette planète, pardonner, ça reste quand même un chemin difficile. De plus, rappelons-le quand même, c'est important, les chrétiens n'ont pas le monopole du pardon, hein, des non-croyants aussi pardonne. Et là, la question est encore plus profonde. Où est-ce qu'ils vont chercher cette capacité à pardonner? Pas en Dieu, forcément. Je pourrais par exemple citer le cas de cet homme qui, à ma connaissance, se dit athée, dont la femme a été tuée lors des attentats du Bataclan à Paris, et qui, dès le départ, a décidé, je le cite, il en a fait même un livre, « Les terroristes n'auraient pas sa haine ». Il a dit « Ils n'auront pas ma haine », c'est le titre de son livre. Il lui avait pris sa femme, il ne lui prendrait pas sa vie. C'était son chemin à lui. Bravo, hein, franchement, hein, bravo. Donc ces gens, ces hommes, cet homme ne peut pas s'appuyer sur le rapport à Dieu. Alors pourquoi des croyants et des non-croyants choisissent-ils cet acte anormal de pardonner? Nous pouvons, je pense, identifier deux raisons que je qualifierais de pragmatiques. Et plus j'y réfléchis, plus j'y perçois une forme de logique fondamentale. La première raison, c'est que le pardon peut à lui seul mettre fin au cycle infernal de l'accusation et de la souffrance en brisant la chaîne du manque de grâce, donc du manque de pardon. Dans le verbe grec, un peu grec, aphiemi, qui signifie pardonner dans le Nouveau Testament, et qu'utilise Jésus lorsqu'il parle du pardon, signifie littéralement jeter au loin, se libérer, relâcher, relâcher quelqu'un en fait. Pourtant, même les chrétiens les plus convaincus choisissent parfois, sans même le savoir eux-mêmes, la voie hindouiste plutôt que celle que Jésus emprunte lorsqu'ils sont confrontés à la nécessité de pardonner. Nous sommes parfois hindouistes sans le savoir. Titre de comparaison, l'approche hindouiste cadre mieux avec notre ressenti habituel, ce ressenti premier qui nous vient quand on nous fait du mal. Je fais allusion ici à la doctrine dite du karma, parce que la doctrine du karma, que je vais expliquer dans quelques instants, va forcément flatter beaucoup plus notre conception de la justice, qui n'est en fait pas juste du tout, hein, entre nous. Dans cette approche, l'homme passe d'une réincarnation végétale, animale ou humaine à l'autre, tant qu'il n'a pas expié ses fautes, tant qu'il n'a pas expié le mal qu'il a commis dans une de ses vies. Dans la religion hindouiste, vous revenez encore et encore sous une nouvelle forme de vie, tant que vous n'avez pas expié toutes vos fautes. Et, précision, toutes les formes de vie ne se valent pas non plus. C'est par exemple très bon signe si vous vous réincarnez en vache, puisque la vache est considérée comme sacrée en Inde. Ça ne vient pas à l'esprit tout de suite quand on voit une vache, mais si, vous seriez en Inde, se réincarner en vache, c'est plutôt un plus. Ça veut dire que vous progressez vers l'état éternel où vous allez être accepté dans le tout cosmique. Donc vous allez mettre fin à vos réincarnations sans fin. En revanche, et désolé mesdames, hein, c'est l'hindouisme, donc remerciez le Seigneur que vous êtes chrétienne. En revanche, si vous réincarnez en femme, c'est que vous avez vraiment fait l'andouille dans votre vie précédente. Parce qu'en dessous de la femme, en fait, il n'y a rien, mesdames. On peut donc prier Vishnu, l'une des déesses de l'hindouisme, que celui ou celle qui nous a fait du mal passe des milliers d'années à se réincarner en femme, en punition. Vous avez au moins cet échappatoire-là quand on vous fait du mal, quand vous priez une de vos déesses. Certains érudits hindous ont même calculé qu'en accumulant les torts de différentes vies d'un homme moyennement bon, on arrivait à 6 800 000 réincarnations. C'est eux qui le disent, hein, 6 800 000 vies pour payer ses dettes. Nous, Jésus l'a fait, hein, une fois pour toutes. Alors, si vous voulez un exemple pratique de karma à l'œuvre, prenez deux personnes têtues, je ne sais pas s'il en existe d'autres, et mariez-les. Elle, je n'arrive pas à croire que tu as oublié l'anniversaire de ta propre mère. Attends. N'est-ce pas toi qui es censé t'occuper du calendrier? N'essaye pas de rejeter la responsabilité sur moi, c'est ta mère, pas la mienne. Oui, mais la semaine dernière, je t'ai dit de me le rappeler. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Mais tu es complètement cinglé. Hein, c'est ta propre mère. Tu n'es même pas capable de te souvenir de l'anniversaire de ta propre mère. Oui, mais tout ce que je sais, c'est que c'était à toi de me le rappeler. Alors ce dialogue inepte, qui ne mène nulle part, mais combien répandu dans bon nombre de couples, se poursuivra indéfiniment pendant, disons, 6 800 000 cycles, jusqu'à ce que l'un des deux dise « Stop, stop, je vais briser la chaîne et la seule façon de le faire, c'est le pardon, je te demande pardon. » Même pour les cacahuètes, hein, il faut demander pardon. Parce qu'on ne passera jamais dans les choses importantes si on n'apprend pas à dire pardon pour les cacahuètes. De toute façon, mes amis, pour le couple, c'est ça ou le divorce, hein. On apprend à s'écouter, à se demander pardon, on divorce. On ne divorce pas, mais le résultat est le même. C'est de ça que parle Jésus lorsqu'il fait allusion à notre dureté de cœur quand les enseignants, la loi de Moïse, encore une fois, viennent essayer de le piéger en disant « Oui, Moïse vous a permis de divorcer dans certains cas, et toi, que dis-tu » Et Jésus dit « Oui, bon, enfin, Moïse est un législateur, il vous a permis de faire ça parce que c'est un observateur social. La loi ne sert qu'à ça. Elle voit une discordance, un dysfonctionnement dans la société. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle légifère pour éviter que les conséquences du dysfonctionnement en question ne prennent trop d'importance. » Mais Jésus revient au fondamental. S'il y a des divorces, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Vous n'êtes pas capable de vous écouter, ni de vous aimer véritablement, et de vous accueillir l'un l'autre, et de vous demander profondément pardon en passant par le fait que vous êtes imparfait, vous êtes pécheur. On s'attendait à quoi, en fait ? Que l'autre soit parfait ? Efface-toi à notre place. Donc, si le cycle du non-pardon se perpétue, c'est le ressentiment qui s'installe. Autrement dit, l'hindouisme, ça vous en doutez un peu, l'hindouisme a tort, et même si la religion de nos amis indiens reconnaît elle aussi la nécessité d'être pardonné, mais c'est le moyen, je pense, où ils se trompent. Donc, si le cycle du non-pardon se perpétue, c'est le ressentiment qui s'installe. Alors, le ressentiment, étymologiquement, c'est littéralement ressentir encore, ressentir en permanence. C'est porter en soi tout ce que nous avons ressenti par le passé lorsqu'on nous a fait pardon du mal. Cette douleur est toujours là. Le ressentiment, c'est le poisson pilote du passé. Il nous suit à la trace. Il se nourrit de nos blessures et nous les fait revivre encore et encore. Pire, il gratte nos croûtes, donc la blessure qui commence à cicatriser, et fait ressaigner nos blessures afin que celles-ci ne cicatrisent jamais. Et ce scénario a sans doute commencé avec le premier couple biblique, Adam et Ève. Songez à toutes les prises de bec qu'ils ont dû avoir au cours de leurs 900 ans de vie commune, puisque la Bible parle de 900 ans. Hein. 900 ans de vie commune, on pourrait dire, j'ai 900 ans pour devenir un bon mari et une bonne femme. Une bonne femme, c'est peut-être pas très... Hein, vous rectifiez. Hein. Ou une femme bonne, vous préférez. C'est vrai, on pourrait se dire, ouais, quel temps, on n'a plus que nous 80, 90 ans pour y arriver. À l'époque, 900 ans, quel pied. Ah non, c'est peut-être pas le pied du tout. Hein. Parce que moi, j'ai essayé d'imaginer les dialogues entre Adam et Ève pendant ces 900 ans. Et le fameux truc, la blessure originelle, la responsabilité commune de départ. Imaginez Ève dire à son mari, « Quelle idée as-tu de manger cette pomme ?» Ça, c'est vraiment la meilleure. Hein. « C'est toi qui me l'as donnée, cette pomme. » Oui, mais... tu n'aurais pas dû l'accepter, après tout. Il paraît que c'est toi le chef. C'est toi le responsable. Tu sais ce qu'il dit, le responsable ? Oui, je sais, je trouve ça affligeant qu'en plus d'être incompétent, tu sois aussi grossier. 900 ans. J'extrapole, hein, j'en sais rien, mais j'imagine. Deux très grands romans écrits par deux prix Nobel de littérature. À l'époque, on écrivait encore des livres, ça m'a échappé. Dépeignent ce même scénario dans un décor un peu plus moderne. On peut se dire qu'Adam et Ève, c'est quand même très loin. Dans l'amour au temps du choléra, c'est un très bon titre, hein. Au moins vous savez où vous allez être. L'écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez, qui est un immense écrivain, dépeint un mariage qui se désintègre à cause d'un savon. Dans le couple vedette de ce roman, c'était la femme qui était responsable de la gestion domestique de la maison. Comme c'est novateur. Tiens, c'est étrange. Donc aussi de remplacer le savon dans la salle de bain. C'était sa responsabilité à elle. Et elle a oublié un jour de le faire. Son mari le lui fit remarquer de façon quelque peu ostentatoire. « Ça fait une semaine que je prends mon bain sans savon. » Ça fait une semaine que je prends mon bain sans savon. Alors bien qu'elle eût véritablement oublié, son orgueil l'empêcha de le reconnaître et le nia avec vigueur. Au cours des 7 mois suivants, ils firent chambre à part et prirent tout leur repas sans prononcer un mot. Et là, je cite un passage du livre, « Même quand ils furent vieux et placides, entendez par là qu'ils n'avaient plus de rapport, plus la capacité d'avoir des rapports intimes, et qui marquaient s'ils firent très attention à ne pas aborder le sujet, car les blessures à peine cicatrisées risquaient de se remettre à saigner, comme s'ils avaient été infligées seulement la veille. Comment est-ce qu'un savon peut détruire un mariage ? Parce qu'aucun des deux conjoints n'était prêt à dire « stop ». Dans son roman « Le nœud de vipère », très évocateur aussi, François Mauriac, un immense écrivain français, pour ceux qui ne connaissent pas, raconte l'histoire d'un homme qui passe les dernières décennies de son mariage à dormir dans une chambre à un bout du couloir de la maison alors que sa femme dort à l'autre bout de ce même couloir. Tout ça parce que des dizaines d'années plus tôt, celui-ci n'exprima pas suffisamment d'inquiétude aux yeux de sa femme lorsque leur fille de 5 ans tomba malade. Apparemment, le père n'avait pas exprimé assez sa tristesse, son trouble, son angoisse. Pendant toutes ces années, le mari attendit sa femme, mais elle ne vint jamais le rejoindre. Alors que de son côté, elle restait éveillée jusque tard dans la nuit, espérant sa venue, mais lui non plus ne vint jamais. Aucun d'eux ne voulut briser le cycle, aucun d'eux ne voulut pardonner. Mes amis, le pardon offre une porte de sortie. Il ne résout pas toutes les questions de responsabilité et d'équité, ça je l'ai déjà dit. Il arrive même qu'il évite soigneusement ces questions, de savoir qui a tort et qui a raison, mais il permet néanmoins une relation de redémarrer, à un lien de se renouer. Si ce n'est pas ça, c'est foutu. Puisqu'on est dans les grands romans, continuons. Alexandre Solzhenitsyn, l'écrivain russe, auteur entre autres de ce fameux livre, là ce n'était pas du roman par contre, hein, L'archipel du Goulag, livre dans lequel il écrit son expérience du Goulag soviétique, où il a passé quelques années, dit que c'est en notre capacité de pardonner que nous différons des animaux. Ce n'est pas en premier notre aptitude à penser, mais notre aptitude à nous repentir et à pardonner qui nous rend différents. Seuls les êtres humains sont à même d'accomplir cet acte anormal qui transcende les lois implacables de la nature. Si nous ne transcendons pas ces règles, nous restons liés aux gens que nous ne parvenons pas à pardonner, comme si nous étions pris dans une sorte de piège. Avez-vous jamais pris le temps d'imaginer un monde sans pardon ? Que se passerait-il si chaque enfant, sans exception, conservait une dent contre ses parents et que chaque famille transmettait dès lors le virus aux générations suivantes ? Imaginez un monde dans lequel chaque pays colonisé nourrirait des rancunes contre son ex-puissance coloniale, où chaque race haïrait toutes les autres, et où chaque tribu sera en guerre contre ses rivales. Alors il m'arrive, je ne vais pas vous le cacher, hein, d'être déprimé quand je pense à tout ça, parce que le monde que je viens de décrire ressemble furieusement à celui dans lequel nous vivons. C'est notre monde, ce monde-là. Hannah Arendt, la philosophe juive, a écrit ceci, « Le seul remède à l'inévitabilité de l'histoire est le pardon. Sinon, nous restons pris au piège du dilemme de l'irréversibilité. » Je vais traduire, peut-être. Il faut accepter au travers du pardon que des choses néfastes nous soient arrivées pour ne pas rester prisonniers de la non-possibilité de changer ces choses. Parce que le refus de pardonner m'emprisonne dans le passé et exclut tout potentiel de changement. Je cède ainsi le contrôle à un autre, en l'occurrence à celui qui m'a fait du mal, et je me condamne à souffrir encore et toujours des conséquences du mal qui a été fait. Un rabbin un jour dit une chose étonnante. C'était un rabbin allemand, un juif allemand, qui eut l'occasion, ils n'étaient pas nombreux, à pouvoir émigrer en Amérique au moment où Hitler a pris le pouvoir. Et lui a senti le truc tourner. Et voilà ce qu'il dit. Avant de venir en Amérique, j'ai dû pardonner Hitler. Je Je n'avais pas envie de porter Hitler dans mon cœur, dans ma nouvelle patrie. J'ai dû pardonner à Hitler avant d'y aller en Amérique parce que je ne voulais pas l'emporter avec moi là-bas. Ça veut dire une chose, tout ça, c'est que nous ne pardonnons pas seulement pour obéir à une loi morale plus élevée, nous le faisons aussi pour nous-mêmes. C'est pour cette raison que, de façon sans doute très provocatrice, puisque c'est moi qui dis ça, pardonner est le seul acte égoïste toléré par Dieu. Vous sauvez votre tête en pardonnant. C'est vous qui vous sauvez. Parce que sur le sujet, voilà aussi ce qu'a dit Lewis Smedes, qui était un intellectuel chrétien. La première et souvent la seule personne à être guérie par le pardon est la personne qui pardonne. Quand nous pardonnons sincèrement, nous libérons un prisonnier et découvrons alors que celui que nous avons libéré, c'est nous. Vous vous rappelez de Joseph, notre premier ministre égyptien, enfin juif, mais nommé par le pharaon de l'époque comme premier ministre de son royaume. Il s'est marié, Joseph, vous savez peut-être, avec une égyptienne, forcément. En Égypte, il y avait des chances. Hein? Et il eut des bébés, Joseph. Vous savez comment il a appelé son premier fils? Il l'a appelé, on va prendre ce texte, Manassé. Joseph appela l'aîné, donc son fils aîné, Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Il l'a donc appelé Manassé. Et la signification, c'est souvent le cas des prénoms en hébreu, la signification du mot, du nom Manassé, c'est littéralement celui qui fait oublier. C'est incroyable. Mais il a choisi ce nom après avoir pardonné. La seule chose qui soit plus difficile et douloureuse que pardonner, c'est ne pas pardonner. Passons maintenant à la seconde raison de pardonner hors théologie, hors rapport à un être, Dieu, etc. Le second grand pouvoir du pardon est qu'il peut relâcher l'étreinte de la culpabilité du coupable. Ça non plus, ça nous vient peut-être pas à l'esprit en premier, parce que quand on a à pardonner, on est surtout centré sur soi. Henry Alexander était membre du Ku Klux Klan. Ça, c'est une vieille photo des années 20. Hein. Dans les années 20, ils étaient encore 6 millions. Je dois situer le Ku Klux Klan, ça va pour tout le monde. Donc, groupuscule raciste, pas au départ, mais c'est très vite. Créé en 1865 par d'anciens soldats sudistes après leur défaite lors de la guerre de sécession. En 1957, accompagné de plusieurs autres membres de cette organisation, Henry Alexander donc arrêta un camion sur la route et en fit descendre le chauffeur noir. Ils l'emmenèrent ensuite et le jetèrent du haut d'un pont. Le chauffeur fut retrouvé mort quelques jours plus tard. L'enquête piétina pendant presque 20 ans, jusqu'au jour où enfin on l'arrêta, lui et ses acolytes. Le procès se tint en 1976 et Alexander et ses amis furent acquittés par un jury blanc. Puisque pour être juré dans les États du Sud des États-Unis, il fallait être sur les listes électorales. Mais comme on compliquait l'inscription des Noirs sur les listes électorales, la plupart des Noirs ne pouvaient pas être sélectionnés comme jurés. Et donc ce genre de crime ratio était toujours, quasi à 90%, traité par des jurys essentiellement blancs et racistes. Donc, en règle générale, les coupables s'en tiraient par un acquittement. Pendant tout son procès, Alexander ne cessa pas de clamer son innocence. Il continua à prétendre n'avoir rien fait à ce chauffeur noir pendant encore bien des années, jusqu'à un jour de 1993, où il finit enfin par confesser la vérité à sa femme. Je ne sais même pas ce que Dieu va faire de moi. Je ne sais même pas comment je dois prier pour moi-même. Et quelques jours plus tard, il mourut. La femme d'Alexander écrivit une lettre d'excuse à la veuve du chauffeur assassiné. Cette lettre fut publiée dans le New York Times, et voilà ce qu'il disait, ce qu'elle disait, entre autres. Henri a vécu un mensonge toute sa vie, et il me l'a fait vivre aussi. Car pendant toutes ces années, elle avait cru à toutes les protestations d'innocence de son mari. Elle y avait cru. C'était son mari. Il n'avait jamais manifesté aucun signe extérieur de remords jusqu'à ce fameux jour. Mais il était trop tard pour tenter une rétractation publique. Pourtant, il n'a pas pu emporter ce secret dans la tombe. La culpabilité était trop forte. Autrement dit, pendant plus de 40 ans, cet homme a souffert de ce qu'il avait fait. Après donc 36 ans de négation violente, il avait toujours besoin de la libération que seul le pardon peut accorder. Le coupable aussi a besoin d'être libéré. Alors le plus grand roman, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, je reste dans les romans, hein, profitez. Le plus grand roman sur le pardon qui ait jamais été écrit, à mon sens, ce sont Les Misérables de Victor Hugo, qui ne fait jamais que 900 pages. Hein, donc, Au début du roman, Jean Valjean s'enfuit du bagne où il est emprisonné depuis 20 ans, au bagne, hein, pour avoir volé un morceau de pain, parce qu'il avait faim. Et Hugo est un existentialiste, autrement dit, il dépeint les choses comme elles sont à son époque. Hein. Vous pouviez voler dans un bagne à l'époque, dans les années 1800, parce que vous aviez volé un morceau de pain. Un soir, il est accueilli par un évêque qui l'invite à sa table et il lui offre de passer la nuit chez lui. Pendant la nuit, Valjean vole toute l'argenterie et il prend la fuite. Sur le chemin, manque de chance pour lui, il tombe sur deux gendarmes qui ne croient pas une seconde à son histoire d'évêque généreux lui ayant donné toute son argenterie, parce que c'est ce qu'il plaide. Ah, mais il m'a donné toute cette argenterie, je ne l'ai pas volée, il me l'a donnée. Comme ce sont des bons gendarmes, qu'ils ont l'intuition, on va aller lui demander. On va retourner chez lui, on verra bien. Les deux policiers décident donc de se rendre chez l'homme, en compagnie de Valjean, pour tirer l'affaire au clair. Et pour le bagnard, il est clair que tout est fichu. Il va retourner au bagne. Quelle n'est pas la surprise lorsque le brave homme accueille les gendarmes et Valjean en disant « Ah, vous voilà !» Je cite le texte. « Je suis fort aise de vous voir !» Eh bien, mais je vous avais donné les chandelles en argent aussi, les chandeliers. Vous avez oublié de les prendre. Tenez, prenez encore ça. Les gendarmes s'éloignèrent parce qu'ils se disaient, l'évêque corrobore la version de cet homme, donc ils s'en vont. L'évêque reste seul avec Valjean. Et l'évêque s'approche de lui et lui dit à voix basse, n'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir un honnête homme. Donc il repart avec l'argenterie. La puissance de ce que venait de faire l'évêque, qui défiait toute idée de justice ou de vengeance, change à jamais la vie de Valjean dans le roman. Une rencontre brutale avec le pardon a fait fondre les remparts que le bagnard avait construits autour de son cœur pour survivre à son environnement, et on peut comprendre. Le roman d'Hugo est en fait une parabole opposant deux conceptions de la justice totalement opposées. Parce que c'est clair qu'il a beau avoir changé de vie, il devient maire d'une petite ville, il fait le bien partout où il passe, ça devient vraiment quelqu'un de très bien, Valjean. Seulement voilà, il y a un policier qui le piste, qui ne veut pas lâcher l'affaire. Ce policier, c'est Javert. Il est chargé de retrouver Valjean et lui ne connaît aucune autre loi que celle de la justice de son temps. Pendant 20 ans, c'est beaucoup, hein, il va traquer l'ancien bagnard. Alors que l'un est transformé par le pardon pendant cette période, l'autre est consumé par sa soif de rétribution. Il veut que Valjean paye. Et tout va basculer dramatiquement le jour où Valjean sauve la vie de Javert, alors qu'il sait très bien que ce policier le piste depuis 20 ans. Il va sauver sa vie. La proie manifestait la grâce à l'encontre du chasseur, du jamais vu. Mais à ce moment-là, il se passe quelque chose en Javert. Le policier sent en lui son monde en noir et blanc s'effondrer. et incapable de supporter cette grâce allant à l'encontre de tout ce en quoi il croit, et ne trouvant pas en lui la même capacité de pardonner que Valjean, il se suicide en se jetant dans la Seine. Il ne peut plus le poursuivre, parce qu'il a été au bénéfice d'une grâce tellement grande qu'il ne peut plus le poursuivre, mais quand il ne peut pas se résoudre à pardonner volontairement, il préfère se suicider, parce que son monde s'est écroulé. Quand vous pardonnez, vous détachez la mauvaise action de la personne qui l'a commise. Vous libérez la personne de son action blessante, vous recréez cette personne, en quelque sorte. Vous la recréez. Alors que dans un premier temps, vous avez identifié cette personne comme celle vous ayant fait du mal, l'instant d'après, vous changez cette identité. Elle est recréée dans votre mémoire. Vous pensez à présent à elle comme étant la personne qui vous a blessé, non plus comme ça, mais comme celle qui a besoin de vous. Ça ressemble un peu ce que Bonhoeffer, le théologien allemand, disait la semaine passée. Hein. Quand vous priez pour quelqu'un qui vous a fait du mal, vous l'amenez devant Dieu et vous faites pour lui, pour cette personne qui vous a blessé, ce qu'elle-même ne peut pas faire pour elle-même. Vous considérez cette personne qui vous a fait du mal, non plus comme la personne qui vous a autrefois aliéné, mais comme celle qui, quelque part, à présent, vous appartient à vous. Autrefois, vous la voyez comme une personne possédant une grande capacité à faire le mal, mais à présent, elle n'est plus à vos yeux que quelqu'un marqué par la faiblesse et qui a besoin de vous. Vous avez recréé votre passé en recréant la personne dont l'attitude ou l'action a rendu votre passé douloureux. Alors c'est vrai qu'à l'analyse, je ne peux pas m'empêcher parfois de penser que certains ont franchi le point de non-retour, qu'ils ne sont plus pardonnables. Et puis, indépendamment des textes bibliques, bien entendu. Hein. Et puis je repense au roman de Victor Hugo et je me dis que le pardon possède son propre pouvoir et que celui-ci va bien au-delà des notions de loi et de justice. Alors je n'ai pas lu que Victor Hugo. À la même période, et c'est intéressant, hein, j'étais déjà très jeune, dans l'adolescence, j'ai également lu le conte de Monte Cristo de Dumas, que la plupart d'entre vous connaissent, hein, ne fût-ce que les adaptations cinéma, qui, comme toutes les adaptations cinéma, sont nulles, souvent. Hein. Lisez le livre, hein, ça vaut toujours mieux. Cette histoire raconte la terrible vengeance, là on parle de vengeance, hein, d'Edmond Dantès, un homme injustement trahi par ceux qu'il pensait être ses amis, s'il n'y a pas de pire trahison qu'être trahi par son ami. Et durant 20 ans, il va croupir dans un sordide cachot du château d'If, jusqu'au jour où il s'en échappe, hérite de manière extraordinaire d'une fortune colossale, et à partir de là, élabore sa vengeance. Et il va aller au bout de sa vengeance. Alors le roman de Dumas m'a beaucoup plu, hein, je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas chrétien à l'époque, hein, mais ça m'a beaucoup plu. Pourquoi ? Ben parce qu'il a flatté mon sens de la justice, il faut que ces salauds payent. Et tout le livre, pour vous dire, hop, le premier, là, il paye, le deuxième, il paye, le troisième, ouais. Le pied, quoi. Mais par contre, celui de Victor Hugo a éveillé en moi celui de la grâce, parce que ce roman est invraisemblable. Quoi. Et à ma connaissance, en plus, Victor Hugo n'était pas chrétien. La justice, mes amis, est rationnelle, bonne et juste quand tout va bien. Mais il faut vraiment que ça aille très bien pour qu'elle réponde à ces adjectifs. La grâce, elle, est irrationnelle, mais totalement irrationnelle, mais transformante et surnaturelle. Le pardon brise le cycle infernal du blâme et desserre l'étau de la culpabilité. En fait, il fait en sorte que nous nous retrouvions, celui que je pardonnais moi, du même côté, alors que nous faisions face jusqu'alors. Et grâce à cela, nous prenons conscience que nous ne sommes pas si différents de celui qui nous a fait du mal. C'est ce que dit si bien Simone Veil. Je rappelle qu'elle a été déportée dans un camp de concentration enfant et qu'elle y a vu mourir toute sa famille. Donc le pardon, elle sait un peu de quoi elle parle. Et elle dit, moi aussi, je suis différent de ce que je crois être. De savoir cela, c'est le pardon. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais la Bible dépeint aussi Dieu passant par la différence stade du pardon hein, qu'il nous demande d'emprunter aussi. C'est très pédagogique de sa part. Un peu comme nous le faisons, nous les êtres humains. Hein. Il nous montre ce chemin à travers sa propre expérience. D'abord, il redécouvre l'humanité de la personne qui a mal agi à son égard. Puis, il abdique son droit à la justice en portant le prix en son propre corps. C'est ce qu'a fait Jésus à la croix. Et enfin, il révit ses sentiments envers nous en trouvant un moyen de nous justifier afin de ne plus nous voir en nous, de ne plus voir en nous que ses enfants adoptifs bien-aimés. C'est aussi un fameux trajet. Hein, je l'ai dit, tout ça a eu un prix, l'incarnation de son fils, Jésus. Et d'un point de vue expérimental, je vais peut-être aller un peu loin en disant ça, mais je vais le dire quand même. D'un point de vue expérimental, avant l'incarnation, avant que Dieu ne s'incarne en la personne du Christ, Dieu ne savait pas ce que c'était que d'être tenté par le péché. Il ne savait pas ce que c'était d'avoir une journée éprouvante, d'être fatigué, d'avoir faim, d'avoir soif, il ne savait pas. En apprenant tout ça, il est véritablement devenu l'un des nôtres. C'est l'Épître aux Hébreux qui explicite le mieux ce mystère, je pense. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, il parle de Jésus. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour, être secouru au moment opportun. Jésus intercède. Pourquoi ? Il prie pour nous. Pourquoi ? Parce qu'il sait. Il n'a jamais flanché, lui, mais il sait quand même. Je ne vais pas vous donner l'image de l'élastique au niveau de la tentation, mais... Donc c'est seulement en devenant un être humain que le Fils de Dieu a pu réellement dire « Ils ne savent pas ce qu'ils font, Père. Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. J'ai vécu plus de 30 ans avec eux maintenant, au milieu d'eux. Je t'assure qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ayant vécu au milieu de nous à présent, comprenez. Retenons donc ceci, et je termine. En pardonnant, nous libérons un prisonnier de ses chaînes, et ce prisonnier, c'est nous. Ça, il faut vraiment en être convaincu, parce que c'est vrai. Mais vous ne l'expérimenterez que si vous empruntez ce chemin. Mais en pardonnant, nous offrons également la possibilité à notre compagnon de cellule d'être libéré, lui aussi. Et ce compagnon de cellule, c'est celui à qui nous devons pardonner. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.